Nous sommes dans ce temps liturgique très spécial qui est entre Ascension et Pentecôte. C'est le temps de l'Ascension. C'est pas seulement une fête le jeudi, là, jeudi dernier. Non, c'est tout ce temps, ces 10 jours qui nous séparent de la fête de la Pentecôte. Un temps spécial où Jésus n'est plus là pour de bon cette fois-ci. Il était apparu 40 jours. C'est un peu comme le temps des grâces, vous savez, pour les convertis, il y a des mouvements comme ça, des présences de Jésus qui se manifestent à eux d'une manière toute spéciale. Mais ça dure 40 jours, ça dure le temps qu'il faut, mais c'est assez court. Et puis après vient ce long temps d'attente de son retour. Et son retour, il est d'abord par l'Esprit Saint. Et nous mettons beaucoup de temps à comprendre cela, à le vivre par la foi. À comprendre qu'il demeure en nous, puisque par la foi nous demeurons en lui. Jésus a combattu le monde à travers sa passion. Ce monde pour lequel il dit qu'il ne prie pas, il le souligne. C'est quand même impressionnant. Il souligne directement que moi je prie pour eux, mais ce n'est pas pour le monde que je prie. Et il tient à le dire. Il tient à dire que lui, il ne confond pas tout. Il ne confond pas le plan psychologique et le plan surnaturel. Le monde, au sens où Jean l'utilise dans la bouche de Jésus, c'est une mentalité qui nie les commandements de Dieu, qui nie les commandements du Christ. Or, par ces commandements, on est relié au Christ, on est en union avec lui. Et on le glorifie. Comment ? Eh bien, en accomplissant, comme il le dit lui-même, à propos du Père, « Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. » Eh bien, pour nous, la même chose. Nous glorifions le Christ en respectant, en appliquant ses commandements, en les accueillant, en vivant dans ce monde. Nous sommes dans le monde, mais pas du monde, dit Jésus aussi explicitement ici. Ben oui, on est dans le monde, mais on ne vit pas avec cette mentalité du monde qui refuse la grâce, qui refuse des commandements, qui refuse d'appeler le bien et le mal, qui veut être au-delà, qui, selon les intérêts, eh bien, une chose est bonne ou mauvaise, mais uniquement selon les intérêts du moment, c'est variable. Maintenant, toute chose a été mise à la bourse, en quelque sorte, la bourse des valeurs de ce monde. Il n'y a plus rien de stable. Les cours ne font qu'osciller. Ils grimpent, ils descendent, etc., sans arrêt. Et toutes les valeurs humaines, toutes les vertus humaines sont comme mises en bourse. Et c'est en fonction de l'investissement qu'on fait dedans, on les exalte ou au contraire on les met de côté, eh bien que ces valeurs existent ou pas dans le monde social. Fidélité, serviabilité, honnêteté, tout ça c'est très fluctuant. Parce qu'on est hors des commandements de Jésus. Jésus dit qu'il n'y a qu'une seule vérité, que cette vérité elle est dans le Père. Et c'est seulement quand on partage cette vérité fondamentale, ce regard sur le monde, et donc sur Dieu, eh bien qu'on peut être de la vérité. Le monde a mis la vérité en bourse comme toutes les autres valeurs, comme le bien et le mal d'ailleurs. C'est la loi du monde qui ne peut pas être sauvée. Jésus ne vient pas sauver le monde, il ne peut pas l'être. Et il nous dit bien que le prince de ce monde, eh bien, ne peut pas être sujet à une conversion. Le prince de ce monde ne pense qu'à une chose, à crucifier le Seigneur de gloire. On le voit à travers et sans cesse. Regardez ces guerres pour lesquelles on nous demande en plus de pleurer. Et je ne parle pas de l'Église, là, je parle du monde social. La guerre d'Ukraine, chose très grave et horrible. Hein. Mais ceux-là même qui ont investi dans l'armement bien des années avant que la guerre n'éclate, afin de préparer la guerre, tout cela Ensuite, au moment où la guerre éclate, prennent l'attitude d'hommes surpris, comme s'ils n'avaient jamais rien su ni jamais rien préparé activement, comme s'ils n'avaient jamais rempli leur compte en banque avec tout ce commerce, comme s'ils n'avaient pas déstabilisé les choses, etc. Il y a d'un côté les politiques et il y a le peuple qui lui subit. Le peuple, il est au-delà, heureusement, lui, il ne déclare jamais la guerre, le peuple. Encore qu'on peut le mobiliser. Il y a toujours, évidemment, on intéresse à la guerre imminente, on le fanatise. Ça, c'est possible, effectivement, mais ce n'est pas profond, c'est un mouvement superficiel, nationaliste, tellement naturel. On veut défendre sa patrie et sa famille. Mais les peuples ne préparent pas la guerre, ce sont les élites qui les préparent. Ça, c'est le monde et ses contradictions. Et c'est ce même monde qui vous demande ensuite de pleurnicher devant les excès, par exemple, de la Russie, etc. Mais, moi, je ne veux pas faire de géopolitique avec vous, ce n'est pas le but, mais le but, c'est de montrer combien les valeurs humaines sont mises en bourse, et les valeurs divines aussi. Il n'y a rien de stable, il n'y a rien de vrai dans ce monde. C'est pourquoi Jésus dit qu'il ne peut pas être sauvé. Il ne prie pas pour le monde, pour le système bancaire international, pour la stabilité des loyers. Il ne prie pas pour tout ça, Jésus. C'est nous qui avons la responsabilité de toutes ces choses. Nous, les hommes. Et les nations ont les gouvernements qu'elles se méritent. Il ne faut pas croire que s'il y a des gens vraiment profondément négatifs, moralement parlant, à la tête des nations, eh bien que ce soit l'effet du hasard. Les populations, et comme Israël dans l'Ancien Testament, dénoncé sans cesse par les prophètes, qui s'adonnaient à l'idolâtrie, le peuple, à toute forme d'idolâtrie, toutes les convoitises matérielles, psychologiques, et qui ensuite s'étonnait que d'être victime de la guerre, d'être victime des aléas, des épidémies, etc., donc des châtiments divins. Le peuple mérite ses gouvernants. Ça aussi, c'est une nation chrétienne ne pourrait pas avoir un certain type de gouvernant. C'est impossible, parce que une société chrétienne, ben, qui met la morale sociale, qui la calque sur les évangiles, eh bien ne peut pas élire des gens qui sont étrangers à cela, voire même qui ne pensent qu'à le nier et à le détruire. Donc, tout ça pour dire que Jésus ne vient pas sauver le monde. Mais alors, pas du tout. En revanche, il vient nous sauver, nous les croyants et tous ceux qui veulent accueillir dans leur vie la vérité. Voyez la Vierge Marie, on n'a jamais pu faire rentrer la Vierge Marie dans les petites boîtes des théologies à la mode. Jamais on n'a pu faire rentrer la Vierge Marie dans l'association de l'abbé Pierre ou autre chose de ce genre. Il est pourtant sympathique, l'abbé Pierre, mais c'est pas la Vierge Marie, elle ne rentre pas dans ces cadres-là. Elle ne fait pas comme ça, elle ne s'occupe pas des choses matérielles, elle s'occupe des âmes. À l'instar de Jésus, la Vierge ne convertit pas le monde, elle convertit des âmes qui sont dans le monde. Et ça, la Vierge Marie, c'est du divin à l'état pur. Et c'est de la bonté à l'état pur. Dans l'Apocalypse, elle nous montre le chemin, elle nous montre ce que nous vivons nous-mêmes aujourd'hui. Elle va au désert, c'est-à-dire dans l'intériorité, elle parle à notre cœur, elle nous apprend à prier, elle nous apprend à nous éloigner des valeurs du monde. C'est ça le désert. Et on s'en éloigne parce que Jésus ne sauvera pas ce monde, je le répète. Il est beau de voir que Jésus est obsédé par la gloire du Père. Il n'aime que la gloire du Père. Et nous devons faire de même. L'ascension montre la hâte de Jésus pour retourner auprès du Père et que en cela tient toute sa joie. pas un moment il est nostalgique à l'idée de quitter la terre. La Vierge et les apôtres, eux, sont nostalgiques. Eux sont dans la peine, mais pas lui. Et il nous enseigne ce désir. Il veut enseigner ce désir aux hommes. Aller habiter dans la gloire du Père. Et nous devons y trouver notre joie par grâce de Dieu, s'il nous fait goûter un petit peu de cette expérience. Jésus réalise le salut des croyants en leur ouvrant le ciel également. Voilà tout ce que Jésus nous donne. Alors, il nous fait désirer le ciel, il nous enseigne à marcher sur le chemin très vertical qui conduit au ciel, le respect de ses commandements, et on voit bien, eh bien que les commandements de Jésus sont de plus en plus éloignés des commandements du monde. Ça va finir par être deux mondes complètement étrangers. C'est-à-dire que ce qu'il y a encore de chrétiens dans la culture européenne va finir par disparaître totalement. Et il n'y aura plus aucun point commun entre les deux. Et Jésus nous enseigne que la porte du ciel ne s'ouvre qu'avec la clé de ses commandements. Les commandements qu'il nous a laissés. Et ça, c'est ces commandements nourrissent notre foi. Notre foi nourrit notre intimité avec le Christ, et plus elle est nourrie, cette intériorité, et bien plus nous accomplissons extérieurement les œuvres du Fils et à travers elles les œuvres du Père. Et c'est très beau de voir comment Jésus nous introduit dans cette communion avec la Trinité. Un temps spécial pour faire le point, pour prendre la décision de ne voir toute chose que par les yeux de Jésus, qu'il est la seule vérité qui nous fait comprendre la nature du monde, les soucis du monde, les stratégies du monde, la direction que prend le monde, et au contraire, en sens inverse, quelle est celle du Père que Jésus nous a enseignée.